Ce qui est important de retenir, c'est que même dans une période de pandémie, les droits de l'homme doivent être respectés. Et il est très important que les gouvernements puissent garantir l'accès à certains services essentiels et sans discrimination. Et cela concerne également les victimes de la traite, qu'elles soient étrangères ou qu'elles soient résidentes ou nationales du pays dans lequel elles ont été victimisées. Bien évidemment, cela concerne la santé, les services sociaux, mais également l'accès à la justice. Donc c'est là que, en effet, explorer les pistes pour utiliser la technologie pour faciliter l'accès aux services, par exemple administratifs, concernant le statut vis-à-vis du séjour et de la résidence des personnes, ou alors l'accès en ligne aux procédures juridiques et judiciaires pour faciliter le partage et la collection des preuves, par exemple, ça devrait également être encouragé. Au niveau de la coopération internationale, l'UDC continue à s'engager auprès des États pour les aider à continuer à effectuer ce partage et pouvoir agir contre les réseaux transnationaux qui agissent dans le cadre de la traite des personnes en particulier, mais pas seulement, et continuer l'action des services de police et de détection des personnes de la traite tout en leur donnant les moyens de le faire, ainsi qu'aux ONG, au personnel des services sociaux et des services de santé, de façon à ce qu'ils puissent servir tout le monde, dont les personnes les plus vulnérables et peut-être dont l'existence est la plus cachée et dissimulée, et qui donc potentiellement seraient les plus exposées à la maladie aussi. Donc il est essentiel que ces personnes aient également accès à des kits médicaux et de protection personnelle. Je crois que le plus important, c'est qu'il faut se rappeler qu'il ne faut pas marginaliser dans cette période des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont pris pour cible, soit actuellement ou qui vont l'être très bientôt du fait de leur précarité, qui sont victimisés et qui sont exploités par les trafiquants tous les jours. C'était le cas avant la pandémie, mais malheureusement, la pandémie ne va certainement pas arrêter ce problème.
Oui, puis le fait justement qu'ils n'ont plus accès à des endroits où ils peuvent trouver refuge, n'est-ce pas, puisque ces refuges sont généralement fermés. Donc c'est encore plus difficile pour eux, n'est-ce pas?
Voilà, soit fermés, soit limités aux personnes qui y sont déjà. Donc les nouvelles personnes détectées. En fait, c'est sans doute l'un des problèmes principaux, c'est qu'on craint une suspension des détections des victimes. C'est-à-dire que pendant un moment, ces victimes seront encore plus invisibles qu'elles ne l'ont toujours été. Et donc, sont d'autant plus susceptibles d'être soumises à des conditions difficiles, à de la violence et à des contraintes dans leur quotidien.
Oui, parce que peut-être une personne peut leur dire « vous pouvez trouver refuge ici » ou bien « on peut vous aider » et ils sont pris dans l'engrenage, n'est-ce pas?
Exactement, ça c'est vraiment un risque quand on n'a plus rien que l'espoir, comme on dit. Parfois on est prêt à accepter des propositions qui auraient paru trop belles en temps normal, mais qu'on ne peut pas refuser et qui nous mettent dans une situation de dépendance qui devient très dangereuse, ou d'endettement parfois, ce qui est souvent le cas dans la traite des personnes. Chacun essaye de trouver des solutions pour faire face à ces difficultés, ces obstacles. Comment atteindre les victimes? Alors, est-ce que les services en ligne peuvent remplacer les services en personne? Alors, c'est ce qui se met souvent en place par les ONG, par les services de justice également ou administratifs. Alors, c'est bien. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès à Internet, aux services de communication nécessaires. Donc, ça reste une difficulté. Donc, on se rend compte qu'il reste quand même des populations qui sont particulièrement isolées et qui auraient moins accès à ces services lorsqu'on est obligé de passer à la dématérialisation de ces services. Ça reste un problème.
Hélas, les enfants aussi font face à des risques d'exploitation pendant cette pandémie. Vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment?
Je crois que à travers le monde, on est beaucoup touché par le fait que beaucoup d'écoles ont fermé et que les enfants n'ont plus leur rituel journalier de se rendre à l'école, d'y trouver un lieu sûr et où ils pouvaient être également nourris. Donc les enfants, en général, retournent à la maison, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les enfants sont dans une situation difficile et l'école leur permet vraiment d'avoir une bulle de sécurité. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les enfants qui ont accès aux cours en ligne, c'est-à-dire qu'ils ont accès à Internet, et parfois il y a un manque de contrôle ou de connaissance des dangers en ligne par les parents ou par les personnes qui accompagnent ces enfants. Donc on voit que la cybercriminalité et l'utilisation des images des enfants se développent. C'est un réel risque, donc il faut une vraie sensibilisation là-dessus. Et ça peut être aussi bien par l'utilisation d'Internet comme un moyen d'accéder aux enfants et de les préparer à devenir victimes, ou bien, bien évidemment, la présence de prédateurs dans l'environnement de ces enfants qui vont saisir l'occasion d'avoir accès à l'enfant sur une période longue au domicile pour pouvoir éventuellement utiliser des images de ces enfants et les faire circuler. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les enfants qui se retrouvent sans solution, sans accès à l'éducation, etc., peuvent se retrouver dans la rue et du coup d'autant plus exposés à différents types de prédation. Ce qu'on a fait, par exemple, et ça c'est assez important en Afrique de l'Ouest, c'était un programme qui existait déjà où on assistait le retour et la réhabilitation des enfants talibés. Ce sont des enfants qui sont dans les écoles coraniques en Afrique de l'Ouest et qui étaient souvent utilisés pour de la mendicité dans la rue, etc. Le fait que ces écoles soient fermées veut dire qu'ils pourraient retourner dans leur famille et peut-être y être mieux. L'ONUDC accompagne, entre autres, le retour de ces enfants dans leur famille. Donc, il peut y avoir des aspects positifs à condition, bien évidemment, qu'on accompagne ce retour.
Et bien sûr, hélas, en même temps, le crime organisé semble profiter, bien sûr, de la situation. Donc, comment exactement ?
Oui, alors j'ai mentionné le fait que Internet était vraiment un vrai risque aujourd'hui pour l'exploitation et en particulier des enfants, pas exclusivement mais en particulier des enfants. Et il semblerait que les réseaux criminels organisés se concentrent là-dessus actuellement. Ça a l'air d'être la voie la plus facile à explorer et la moins sauvegardée. D'autant plus que les victimes souvent s'exposent par elles-mêmes et sans le savoir. Il y a une possibilité d'utiliser un mode opératoire passant par les moyens de communication et technologiques modernes, en particulier Internet, et toutes les applications qu'il est facile d'utiliser et derrière lesquelles il est facile de se dissimuler. Donc ça, c'est une réalité qui est déjà très visible. Et par ailleurs, il y a des suspicions d'augmentation de cette économie sous-marine, disons, et de cette exploitation par cette masse de personnes qui se retrouvent sans emploi et sans solution et qui créent vraiment un pool de personnes à exploiter qui sont à la portée des trafiquants. Les trafiquants vivent, se nourrissent de la vulnérabilité des gens et une crise économique ou des difficultés financières sont vraiment à la source des opportunités qui naissent pour la traite des personnes et donc pour le crime organisé.
Et donc, ils arrivent à atteindre les gens justement par Internet ou est-ce qu'ils arrivent à atteindre les gens dehors ? Est-ce qu'il y a des exemples ou est-ce qu'on spécule justement ?
Pour l'instant, c'est de la spéculation. On tire également certaines leçons de crises économiques précédentes qui ont pu montrer une augmentation de la prévalence de certains types de traite suite à la crise de 2008, par exemple. Ce sont des pistes qu'on explore et qu'on va continuer à explorer. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de spéculation.
Morgane Nico, merci beaucoup pour cette interview.
Je vous remercie.